7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire des grandes figures féminines du continent africain. Alors, pas toutes, hein, bien sûr, elles sont tellement nombreuses. Mais tout de même, sans prétendre couvrir les siècles, balayer les siècles en quelques minutes, on peut s'interroger sur ces femmes hors du commun, reines ou femmes du peuple, qui, parce qu'elles étaient femmes, ont souvent été enfouies par l'histoire. On pourrait citer Anzinga d'Angola, Rana Valona III de Madagascar, Madame Tinubu, grande commerçante nigériane du 19e siècle, les Amazones du Dahomey, la militante malienne des indépendances à Wakeita et beaucoup d'autres. Bonjour Sylvia Serbin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous allez nous raconter pourquoi, en tant que femme et métisse, vous vous êtes lancée dans cette tâche de 400 pages, reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire aux éditions Medunetter, parce qu'il y a aussi un peu de l'histoire personnelle dans tout cela. Et on est ravis de vous accueillir, en tout cas.
Merci, merci de m'accueillir. En fait, c'est vrai que c'est une longue histoire, je vais essayer de la
synthétiser. On va y revenir, hein, vous allez avoir le temps de la raconter. Et on est également avec Ophélie Rion. Bonjour Ophélie Rion.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des femmes et du militantisme en Afrique de l'Ouest au XXe siècle, au laboratoire des Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Vous avez d'ailleurs dirigé le numéro Femmes africaines et mobilisation collective de 1940 à 1970 de la revue Le Mouvement Social qui est édité à La Découverte. Et puis vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde Bordeaux. On sera également en ligne au Canada avec Awa Lital qui est sociologue à l'Université d'Ottawa et qui a publié De la Reine de Saba à Michelle Obama. Alors là, vraiment, c'est le grand saut. Africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui aux éditions L'Harmattan. On reviendra aussi en reportage sur la conférence de Michelle Obama. Ça tombe bien, elle était à Paris mardi dernier. Elle a rempli une salle de 20 000 personnes, comme prévu. Elle symbolise la femme puissante du 21e siècle. Et quant à vous, les voisins, vous êtes nombreux pour cette émission à poster des messages sur les oubliés de l'histoire, preuve que la mémoire fait bien partie de notre présent. Appelez-nous pour nous parler, surtout si vous êtes une femme, de vos découvertes inspirantes dans votre vie de tous les jours. Téléphone fixe ou WhatsApp, c'est le même numéro, 33 1 84 22 71 71. Un message tout de suite qui a été posté en audio sur notre serveur WhatsApp.
Bonjour, je m'appelle Aziza, je suis médecin congolaise et je travaille au Burundi, j'habite Bujumbura. En ce qui me concerne, j'ai deux héroïnes congolaises. La première s'appelle Kimpavita, la seconde qui vient bien avant celle-là, elle s'appelle la reine Nijinga. Et moi je ne les connaissais pas, donc on ne les a pas étudiées à l'école. Je les ai apprises alors que j'étais déjà adulte, que j'avais déjà fini l'université. En ce qui concerne Kimpavita, moi je l'ai connue en lisant des livres il n'y a pas 7 ans. Et Nijinga, je l'ai vue dans un film sur Canal+. Donc j'ai vu un film qui parlait de la reine Nijinga et je ne savais même pas qui elle était. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment désolée. Ça m'attriste de ne pas connaître ces genres d'héroïnes. J'aimerais bien qu'on les enseigne un peu plus. En tout cas, moi, j'ai fait un effort pour qu'on puisse les enseigner à nos enfants. Et ce sont des femmes très fortes. C'était des guerrières, pratiquement des reines, des sangs nobles, et qui ont eu des destins assez tragiques, en tout cas pour Kimpavita, qui est morte à 19 ans, brûlée vive. Et pour Nijinga, 80 ans, mais qui a quand même façonné non seulement le Congo, mais aussi l'Angola.
Kimpavita, oui, bah alors ne soyez pas désolés parce que nous sommes toutes désolées hein, dans notre ignorance et c'est ça aussi qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir ce regard sur la façon, les trous de l'enseignement, de l'histoire. Kevin Aloubumbashi nous dit « Je n'ai rien appris à l'école primaire sur les héroïnes africaines ». Jordan à Kinshasa nous poste le message suivant. L'Afrique en particulier, la RDC a du mal à enseigner son histoire, elle ignore ses origines, mais elle connaît celle de l'Europe. Et puis il y a ce message posté par Klaus à Kinshasa.
L'histoire africaine n'est pas écrite, c'est plus oral, de bouche à l'oreille. Alors, vous voyez, lorsqu'il y a une histoire qui est transmise de bouche à l'oreille, il y a une déformation. Mais quand c'est écrit, ah, là, on peut avoir des certitudes sur l'exactitude des faits historiques.
Oui, alors je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Je vais lire aussi d'autres messages parce que tout le monde poste, tout le monde y va de sa reine, de son héroïne dans son pays. Et bien sûr, on prend vos appels en direct chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Comment vous réagissez à ces messages, Sylvia Serbin, Ophélie Rion, à cette curiosité finalement qui n'est pas assouvie, Sylvia Serbin?
Tout à fait. Tout ce que ces auditeurs retransmettent, c'est qu'effectivement, on a un grand besoin de connaître des choses sur notre passé, d'autant que venant d'anciens pays colonisés, on a nié notre histoire pendant très longtemps. Et je remarque que ce sont maintenant les jeunes générations qui sont avides de connaître cette histoire, parce que l'histoire a un rôle important pour la structuration de l'identité, et ne serait-ce que pour se sentir au même niveau que leurs autres camarades qui affichent leur grande histoire dans d'autres pays. Ils ont besoin de toutes ces références pour pouvoir montrer que l'homme africain aussi était dans l'histoire.
Oui, et la femme aussi.
Oui, parce que moi je m'intéresse surtout, disons que j'ai voulu relire des pages de l'histoire africaine à travers des femmes qui s'y sont illustrées, donc vous avez raison.
Ophélie Rion, sur ce voisin, ces deux voisins d'ailleurs qui soulignaient, qui s'interrogeaient sur la question des sources, parce que pour faire de l'histoire, il faut quand même avoir des documents, un minimum.
Oui, mais en fait, je trouve ça très intéressant d'une part d'entendre ces auditrices et ces auditeurs qui rappellent l'enjeu fondamental d'intégrer les femmes à l'enseignement de l'histoire dès les petites classes. Et bien sûr, se pose la question de comment retrouver les traces de ces femmes. En fait, on en a des traces, que ce soit par l'histoire orale, par la tradition orale, ou que ce soit dans les sources écrites, alors que ce soit dans les sources arabes, dans les sources coloniales. En fait, en cherchant, on en trouve. Mmh. Voilà. Mais ça demande du travail, et c'est notre rôle aux historiens, historiennes, d'écrire cette histoire. C'est aussi le rôle, une auditrice parlait de la littérature et du cinéma. Et dans les arts, on retrouve aussi beaucoup de figures féminines. Donc il n'y a bien sûr pas que l'histoire au sens académique. Mmh. Qui leur donne une place.
C'est ça, et il faut la faire découvrir au grand public, d'où l'intérêt aussi des documentaires, de la radio, de la télévision. Sylvia Serbin, vous êtes historienne de formation, mais pas de métier. Mmh. Ce livre, c'est aussi, que vous publiez, Reine d'Afrique, c'est aussi le résultat, je dirais, d'une histoire personnelle avec vos origines, non ?
Oui, en fait, la chance, parce que j'ai vu qu'il y a des auditeurs qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ces personnages de leur histoire, mais moi, la chance que j'ai eue, étant née au Sénégal, ayant grandi au Sénégal, du temps du président Senghor, qui mettait un point d'honneur à ce que soit enseigné dans les écoles l'histoire de l'Afrique, des grands royaumes africains, et c'est vrai que dans mon enfance, donc j'entendais les grands-parents de mes petits camarades, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni télé, ni jeux vidéo, donc le soir, en rentrant de l'école, on était tous assis dans une cour, et les vieux nous racontaient ces histoires. Oui. Et donc, j'entendais parler des grands royaumes africains, et il y avait toujours des femmes, soit des reines, soit des conseillères, soit des mères, qui avaient un rôle important, ou même des guerrières. Et plus tard, si je peux continuer, quand j'ai fait mes études d'histoire à Paris 7, c'était à l'époque du féminisme émergent, et on se rendait compte que dans toutes les grandes régions du monde, on essayait de faire émerger à toute force des personnages féminins. Même si elle n'avait été que concubine de roi, on essayait de leur trouver un rôle historique.
Mais à cette époque, vous intéressiez-vous déjà aux héroïnes africaines, mais que vous disaient vos profs d'histoire de l'université?
Alors,
en
justement,
France
et j'ai posé la question à un de mes professeurs, je disais, mais je ne comprends pas, parce que les Africains, les Noirs en général, étaient totalement absents de cette émergence de personnages historiques. Et moi, je me suis spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, et j'ai dit, on apprend des grands personnages masculins, mais qu'est-ce qu'il y en est des femmes? On n'en parle pas. Et un de mes professeurs m'a répondu que les femmes noires et africaines en particulier n'ont joué aucun rôle dans l'histoire, et que si j'ai entendu entendu parler de certains personnages. Ce sont des mythes, M-Y-T-H-E-S, inventés par des populations primitives pour essayer de valoriser les femmes.
Alors, quelques du coup, vous avez fait 400 pages. Ça
oui,
vous a
voilà,
pris pas mal
parce
d'années.
Que j'ai trouvé dans des archives militaires quelques années plus tard, des archives militaires françaises du 19e siècle, le compte-rendu d'une bataille faite par un officier français à sa hiérarchie parisienne. Et il citait une résistance menée par une reine qu'on avait du mal à assujettir. Et cette reine, c'était la reine d'Ateyala qui avait bercé mon enfance. Alors, je me suis dit, si même les Européens parlent de ces femmes, c'est qu'elles ont existé. Ça a été un peu le déclic. Et voilà.
Alors allez-y, racontez-nous, racontez-nous cette histoire-là que nous, nous connaissons si mal.
Alors, la reine d'Ateyala a vécu dans le nord du Sénégal, pas très loin de dans le royaume du Wallo, qui était proche de Saint-Louis, où je suis née moi-même. Et donc, c'est elle qui a mené la résistance, la première grande résistance contre les troupes du général Faidherbe qui était venu conquérir le Sénégal pour commencer à poser les bases de l'empire colonial français. Et donc, ça a été, et son royaume était une espèce de verrou qui empêchait d'atteindre d'autres zones. Donc, elle a mené la résistance, elle avait régné pendant 22 ans. Et malheureusement, contre les canons et les fusils modernes européens, ces troupes n'ont pas pu faire grand-chose, mais ils ont vraiment résisté avec beaucoup de courage. Et à la fin, sentant sa cause perdue, elle s'est réfugiée dans le royaume du Cailleur voisin. Elle a essayé de remonter cette résistance, mais c'était peine perdue. Et elle est morte dans ce royaume en exil après avoir régné et avoir résisté tout ce temps.
Alors, toutes ces histoires que vous racontez sur ces reines d'Afrique et héroïnes, il y a des traits communs, bien sûr, en fonction des époques, mais elles sont guerrières, elles vivent des souffrances dans leur vie personnelle, elles ont des fins souvent tragiques, elles se sont beaucoup opposées à la colonisation pour celles qui vivent à l'époque de la colonisation. Et c'est vrai que ce ne sont pas des vies... Il y a une forme d'abnégation aussi dans leurs histoires, non ?
Disons que ces femmes, ça montre que de tout temps, les femmes africaines se sont engagées dans les combats de leur société. Elles ne se sentaient pas indifférentes à ce qui pouvait arriver à leur territoire. Et d'autre part, elles se sentaient impliquées parce que, comme disaient les Amazones, si nous, on ne combat pas l'ennemi, l'ennemi viendra tuer nos enfants et écraser nos sociétés. Donc, elles avaient une responsabilité. Voilà, les Amazones du Dahomey. Donc, et je montre à travers différents personnages, que ce soit des femmes d'obédience royale, c'est-à-dire des reines, ou des femmes du peuple, ou des femmes des conseillères, comment ce cheminement a permis que toutes se sentent concernées par ces batailles et elles ont donné de leur vie, elles ont payé elles-mêmes de leur vie pour pouvoir lutter aux côtés de leurs compagnons masculins.
Les Amazones du Dahomey, là, c'est vraiment des guerrières hallucinantes. Moi, je dois dire que je connaissais très mal ces femmes qui, d'ailleurs, se sont succédées. Hein. Il y a eu plusieurs
armées
de femmes.
Voilà, hein. Pendant deux siècles, elles ont constitué le fer de lance.
Dans l'actuel Bénin, hein,
voilà,
précisons bien.
Oui, l'actuel Bénin.
De la fin du 19e siècle
Du 17e à la fin du 19e siècle, elles étaient vraiment le corps d'élite de l'armée dahoméenne. Elles étaient toujours aux premières lignes des combats.
Ça s'est mal terminé, hélas, pour elles. Hein.
Oui, au moment lorsque la France a réussi à vaincre donc, les résistances du Dahomey à l'époque, donc le corps des Amazones a été dissous, mais elles se sont battues presque jusqu'au dernier carré pour défendre Abomey, la capitale après le départ de Béhanzin.
Et ouais. Alors c'était pas des tendres hein, quand même. Il y avait les archères, les faucheuses, les artilleuses, les chasseresses.
Elles étaient organisées en fait, hein, parce que les différents rois dahoméens qui se sont succédés ont au fur et à mesure essayé d'organiser ce corps militaire. Et au fur et à mesure de nouvelles armes qui entraient dans l'armée du pays, donc ils essayaient d'organiser. Donc il y avait des éclaireuses. Donc c'est les plus jeunes qui pouvaient se faufiler à travers la brousse sans être repérées. Et elles avaient une espèce de casque avec des cornes d'animal. Il y avait des artillères et même des femmes, en plus de ces 5 ou 6 corps militaires, des femmes du peuple qui suivaient l'armée, qui s'occupaient du ravitaillement, qui s'occupaient de distribuer les armes et les munitions et qui n'hésitaient pas avec leur coupe-coupe, leur machette, à poursuivre des des ennemis en fin de combat pour suivre des ennemis
redoutables.
Voilà, tout à fait.
Mais moi, je me suis demandé pourquoi les rois successifs, donc du XVIIe à la fin du XIXe, choisissent des femmes pour être à la pointe du combat.
Parce qu'on avait, remarqué que c'était les plus... elles se voulaient invincibles, en fait. Elles avaient beaucoup plus de hargne au combat. Et comme je l'ai dit précédemment, elles se considéraient comme un rempart de leur société. Mmh. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les travaux des champs étaient surtout occupés par les hommes. Et comme le royaume du Bénin est un royaume assez belliqueux, qui faisait beaucoup de guerres, du coup, la population masculine était souvent décimée par ces guerres successives. Donc, on a fini par prendre des femmes. Au début, c'était des prisonnières qui, au lieu d'être vendues en esclavage, on a pris les plus robustes pour en faire, pour les former petit à petit. Et voyant leur ardeur au combat, elles étaient très respectées dans la société. Oui. Et c'est devenu le corps d'élite.
Ça bouscule quelques idées reçues. Ophélie Rion, vous êtes intéressée aux femmes militantes dans l'Afrique des indépendances. Elles ont assez peu pris la lumière aussi. Qu'est-ce qu'elles ont de passionnant? Qu'est-ce qu'elles racontent aussi des luttes sociales de l'époque?
Bien, de la même manière que les femmes ont joué un grand rôle avant la colonisation, dans ces armées comme les Amazones du Dahomey, on retrouve les femmes aussi à tous les postes, en fait, au moment des combats anticoloniaux, enfin de décolonisation, que ce soit dans la lutte à l'intérieur des partis politiques pour demander l'égalité des droits, ou ensuite
pour demander l'indépendance. Places, et pour demander des places
demander
dans les partis aussi.
Complètement. Elles ont dû se battre déjà pour être entendues hein, par leurs camarades masculins qui acceptaient pas toujours que des femmes soient à côté d'eux pour tenir le micro, pour militer, pour obtenir qu'elles aient le droit de citer et le droit à la parole. Et on les retrouve aussi dans les guerres d'indépendance, que ce soit en Algérie, au Cameroun, ou ensuite dans les colonies portugaises au moment des guerres de décolonisation, où là on retrouve, alors plutôt dans les colonies portugaises, des femmes en armes qui participent au maquis, qui font la guerre également. Donc je trouve ça intéressant en fait par rapport à ce qui a été dit avant, de voir que la colonisation a vraiment eu des effets, a complètement enfoui les femmes, ces femmes qui étaient guerrières, qui pouvaient dans certaines sociétés être guerrières à l'époque précoloniale, eh bien ont été complètement occultées du fait de la colonisation, mais en fait au moment des décolonisations, elles reviennent également sur le devant de la scène et reprennent ces rôles qui leur avaient été enlevés par cette histoire coloniale.
Alors, j'ai dit au début de l'émission, vous avez la parole, les voisins, les voisines, surtout si la redécouverte de ces héroïnes vous inspire ou vous apprend des choses pour notre présent. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin, Maman, qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour, Maman.
Maman vous appelle de Niamey.
Okay. Pardon, de Niamey. Pardonnez-moi.
De Niamey. Voilà.
Vous êtes
je suis honoré d'intervenir sur les récits sur ce sujet important concernant le thème des héroïnes.
Oui.
J'aimerais parler d'une femme nigérienne à la personnalité singulière, Saronia Mangou. Alors, Saronia Mangou, il est vrai, un mythe s'est dégagé, s'est créé autour de cette femme, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un fait historique, c'est une réalité vécue. Donc, Saronia Mangou est une héroïne qui s'est forgée une personnalité autour d'un certain nombre de valeurs, telles que la responsabilité féminine, la tolérance religieuse, le patriotisme, la justice et la droiture. Donc, voilà à peu près en ce qui concerne l'héroïne. Alors, il est important pour moi de situer un peu le village de cette femme historique. En fait, elle est de la région de Dosso, donc à un espace géographique qu'on appelle l'Aïwa, situé dans le Dalol Bosso et le Dalol Maori.
Oui.
Alors, donc, cette femme avait mené une résistance contre la colonne du capitaine Voulet et du capitaine Chanon, autant pour moi. Donc, en ce temps-là, c'était le contexte vraiment de la colonisation, la pénétration coloniale. Donc, cette femme était obligée de mener une résistance pour repousser la mission Voulet au Chanon, la mission d'Afrique centrale.
Pourquoi cette femme vous touche en particulier? Pourquoi cette femme vous touche en particulier, Maman, dans l'histoire de votre territoire?
Oui, elle me touche beaucoup parce que c'est une femme qui a marqué l'histoire de notre pays dans la mesure où, par exemple, elle n'était armée que d'une quenouille. Elle n'était armée comme arme, elle ne disposait que d'une quenouille. Et elle ne faisait la guerre que lorsque son territoire est attaqué. Mm. Donc vous voyez, cette personnage a fait vraiment écho et dans le monde. Si vous prenez par exemple le réalisateur, un cinéaste mauritanien qu'on appelle Maître Rondo, qui avait fait un film qui avait été primé au Festival en 1986. Et quand vous considérez que l'écrivain Ablaye Mamani avait écrit un roman inspiré de cette dame, et qu'actuellement un lycée d'enseignement général porte son nom, je pense que cette femme devient emblématique.
Est-ce que l'histoire de Sarawunya Mangou est pour autant bien connue, bien enseignée au Niger?
Ah, l'histoire de Sarawunya est bien connue en Afrique de l'Ouest. Et surtout que ces dernières années, beaucoup d'auteurs s'intéressent à ce personnage-là.
Merci de nous avoir appelé, Maman. Sylvia Serbin, vous avez bien connu, non pas personnellement, mais vous vous êtes intéressée aussi à ce destin hors du commun, Sarawunya Mangou.
Oui, bien sûr. Donc, elle a mené la résistance de son village. Elle a poussé ses troupes au combat contre la mission Voulet Chanoine de triste mémoire qui a perpétué des assassinats tout le long de sa traversée vers le Tchad. Et donc, le village a été entièrement brûlé par des canonnières françaises. Et donc, c'était un drame absolu. Et donc, la Sarawunya, dit-on, en a réchappé. Et j'en parle dans le prochain livre que je suis en train de préparer. Je reviens là-dessus.
Ouais, il y a la suite qui se prépare.
Voilà.
Des reines d'Afrique. Alors, vous parlez de une auditrice qui nous parlait de Anne Zinga. Comment on prononce
Zinga.
D'ailleurs Zinga. Hein.
Oui, j'avais assisté d'Angola. D'ailleurs en Angola à un séminaire et donc il y a des gens de différentes régions pendant une heure qui se battaient presque, voilà le vrai prononcé de ce nom, c'est Anzinga.
Voilà. Vous parlez aussi de Ranavalona III, la dernière reine de Madagascar, oui. De la fameuse grande commerçante du 19e siècle.
Madame Tinubu, qui a un parcours remarquable.
Nigériane.
Madame Tinubu, et qui avait un quasi monopole de commerce d'huile de palme avec la Grande-Bretagne au moment où la révolution industrielle avait besoin d'oléagineux pour faire tourner ses machines. Donc cette femme commerçait, elle envoyait ses fûts d'huile sur les bateaux vers l'Angleterre et elle avait un pouvoir extraordinaire.
Mais elle vraiment tombée dans l'oubli quand même, non?
Pas dans son pays.
Pas dans son pays.
Absolument pas. Il y a eu il y a deux places, une à Lagos, une à Béokuta, sa région d'origine, qui porte son nom. Au Nigeria, les gens connaissent son histoire. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des écrits sur elle. Le problème, c'est que tout est un petit peu... Il y a des frontières au niveau des connaissances historiques, malheureusement. Mais justement, je trouve que dans les pays anglophones, on valorise davantage tous ces parcours féminins de l'histoire, alors que dans les pays francophones, non seulement ils ne sont pas enseignés ou très rarement, mais ils sont totalement occultés.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, on s'intéresse à ces reines d'Afrique. Alors ça peut être des femmes du peuple, des commerçantes, des héroïnes, des aristocrates qui ont marqué les esprits, marqué l'histoire du continent, dont certaines sont tombées, en tout cas pas forcément dans l'oubli, vous le disiez, mais en tout cas qui n'ont pas réussi à traverser les frontières dans les mémoires collectives. 33 1 84 22 71 71.
En 1886, entre Osso-Mauritanie et Rosbecho, ce qui constitue de nos jours la frontière qui sépare la Mauritanie du Sénégal. Il y eut un événement historique, il est question de remémorer. À cette même époque, les Maures avaient tendance à l'esclavage, c'est-à-dire à la captivité humaine. Un mardi, ils s'infiltrèrent dans un village Wallo Wallo Nomender pour une évasion rapide. Mais, comme à l'accoutumée, ce jour même à Ner, les hommes étaient au champ, les femmes naturellement au foyer. Mais avant l'instant tragique, c'est-à-dire l'invasion, ces dernières ont préféré le suicide à la captivité humaine. Ainsi, à jamais, le village de Ner ne fut soumis à l'esclavage.
Aram Bakar, Aïcha Kaye Diogo Maye, Bakar Penda, Yirim Kote. Ñoño fan won Tiawala.
J'étais sûre que ça allait vous plaire, Sylvia Serbin. Wallo d'Africando, vous connaissez?
Exactement, c'est une belle chanson d'ailleurs, ouais, qui hommage, repart des femmes d'Under.
En hommage aux femmes du village d'Under, au nord de Saint-Louis, du Sénégal, en 1818.
Donc les dates vont entre 1818 et 1820, parce que selon les sources, évidemment, c'était difficile de dater précisément donc cette époque. Mais moi, mes sources sont surtout 1818.
L'histoire, c'est que ces femmes, elles ont le village qui est envahi par les morts et leurs époux sont occupés au champ et elles vont préférer se suicider plutôt que d'être captives et réduites en esclavage. Il y a cette dimension souvent sacrificielle dans ces histoires que vous racontez.
C'est vrai que c'est une dimension très forte de la femme. Mais avant de se suicider, elles vont résister parce que quand elles apprennent que la colonne de soldats mauritaniens arrive, elles vont toutes dans leur case. Elles se cachent les cheveux sous des bonnets d'hommes. Elles enfilent des tenues de leur mari, de leur fils ou de leur frère, des tenues d'hommes. Elles prennent tout ce qu'elles peuvent trouver pour se défendre, des fusils, des machettes, des pilons, et elles attendent les soldats et elles comptaient sur leur supériorité numérique parce qu'on dit qu'elles étaient 300. Donc elles se sont battues une première fois, elles ont fait beaucoup de blessés et de morts dans la colonne des envahisseurs et ceux-ci, déjà furieux de voir que c'était des femmes qui leur résistaient, ont décidé de se mettre un peu en retrait pendant quelques heures pour ne pas abîmer cette marchandise qu'ils voulaient vendre sur des marchés d'Afrique du Nord et de revenir. Donc les femmes ont compris qu'elles ne pourraient pas résister longtemps et c'est là où elles ont décidé de se suicider pour ne pas être emportées en esclavage.
Je vous lis aussi un message de Truman Brazzaville au Congo Brazza. Kimpavinta et Jeanne d'Arc sont dans les cours d'histoire au Congo. Alors vraiment, à chaque fois, là, on passe d'un territoire à l'autre, d'une époque à l'autre. Elles ont toutes les deux terminé brûlées vives sur un bûcher. D'ailleurs, une auditrice nous le disait. Elles sont implantées au cœur de l'histoire de l'Afrique et sont deux arbres gigantesques qu'aucune force ne pourra abattre. Quand même, là, quand je parlais de la dimension sacrificielle, Kimpavinta, elle a très très mal terminé.
Oui, c'est une jeune prophétesse. Enfin, c'est une jeune Congolaise. Elle était chrétienne et donc elle a décidé de pousser son peuple à résister contre l'influence des missionnaires portugais, italiens, qui, pensait-elle, préparaient l'arrivée de la colonisation portugaise pour s'emparer des richesses du Congo. Et du jour au lendemain, d'ailleurs, on voit qu'il y a des femmes et des jeunes femmes personne ne pouvait prédire un tel destin. Elles se levaient et elles trouvaient les paroles qu'il fallait pour enflammer leur peuple. Et donc, elle a réussi à créer un grand mouvement de résistance pour demander au roi local, Pedro VI, de repousser toutes ces influences étrangères néfastes au pays, parce qu'il y avait des guerres, de la famine, des princes qui se battaient entre eux, armés par des Portugais en échange d'esclaves, donc il y avait une tourmente incroyable
pays. On appellerait ça aujourd'hui le leadership féminin.
Exactement. Et donc, pour le même sort que Jeanne d'Arc, c'est comme ça que l'Église punissait ceux qui lui résistaient, les hérétiques. Donc, elles étaient condamnées à mourir sur le bûcher.
Nous revenons alors très en avant dans le temps, à l'époque des indépendances. Écoutez la voix d'Awa Keïta à Ophélie Rion, vous qui êtes historienne spécialiste des femmes militantes dans les indépendances en Afrique. C'est une voix que vous connaissez bien.
Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu le droit de vote comme toutes les femmes de mon pays, sachant lire et écrire. C'était les conditions à l'époque. Et déjà en 1945, j'ai voté pour le candidat qui devait plus tard être un des membres fondateurs de l'Union soudanaise RDA et du Rassemblement démocratique africain lui-même. Je veux parler de Feu Mamadou Konaté, qui a été le vice-président du Rassemblement démocratique africain et président de l'Union soudanaise RDA, section territoriale du Rassemblement démocratique africain. Il y a des chefs féodaux qui nous disaient: mais vous n'avez pas besoin de faire de la politique, vous, ce sont les hommes seulement qui ont besoin de faire de la politique. Il y a un qui m'a sorti avant les élections du 17 juin 1951 qui m'a dit: tu te fatigues pour rien, tu n'auras rien. Qu'est-ce qu'une femme peut avoir dans ce pays, dans un pays musulman comme le nôtre? On n'engagera jamais le dialogue avec une femme.
Voilà la voix d'Awa Keïta, diffusée dans l'émission de Maryse Condé, Histoire d'un temps, histoire des hommes, en 1981. Donc peu après la mort d'Awa Keïta, qui est morte en 1980. Ophélie Rion, vous êtes spécialiste de cette femme militante malienne, sage-femme, militante anticoloniale, qui a été la seule femme députée au moment de l'indépendance. Elle incarne quoi, cette femme Awa Keïta, pour vous, Ophélie Rion?
Alors déjà, je dois dire que je suis très émue en fait d'entendre sa voix, parce que je n'avais jamais entendu la voix d'Awa Keïta. Donc merci beaucoup pour ce son.
Ah, je pensais que vous l'aviez déjà entendu, cette archive.
Mais non, pas du tout, pas du tout.
Bon, en tout cas, merci à la Sonothèque de RFI.
Complètement. Donc voilà, on peut trouver des nouvelles sources en permanence de ces voix de militantes, de femmes africaines. Et donc, votre question était...
Qu'est-ce qu'elle incarne, finalement? Qu'est-ce qu'elle incarne? Quelle a été, racontez-nous un peu quelle a été sa vie, parce que elle a quand même eu une vie très, très tumultueuse, et surtout une grande difficulté de se construire en tant que femme publique par rapport à sa vie privée.
Complètement. Et en fait, c'est exactement ça qui m'intéresse dans la trajectoire d'Awa Keïta. C'est qu'elle appartient à cette première génération de femmes formées sur les bancs de l'école coloniale qui vont avoir des métiers salariés. Elle va être sage-femme. Et déjà, c'est un combat, en fait, d'aller à l'école, pour cette génération de femmes. Sa mère s'oppose à sa scolarisation. C'est son père qui insiste pour qu'elle aille à l'école. Ensuite, elle se marie. C'est aux côtés de son mari qu'elle s'initie à la politique. Dans ses mémoires, elle raconte que c'est l'invasion de l'Éthiopie par les Italiens qui va attiser en fait sa conscience politique dans les années 30. Et puis voilà, progressivement, aux côtés de son mari, elle milite syndicalement, politiquement. Elle témoigne de la résistance des hommes, là, dans le témoignage qu'on a entendu. Les hommes considèrent que faire de la politique est une affaire d'hommes et pas une affaire de femmes. Donc elle organise des réunions clandestines de femmes dans sa maternité, en tant que sage-femme. Voilà, donc elle a accès aux femmes de par son métier. Elle les organise, elle les initie à la politique. Elle est mutée en permanence par l'administration coloniale qui la qualifie de sage-femme communiste. Alors bon, Awa Keïta n'est pas forcément une militante communiste.
Elle dérange, en tout cas, elle dérange.
Mais par contre, elle dérange.
Ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que elle a divorcé de son premier mari. Elle pouvait pas avoir, en tout cas, elle n'a pas donné d'enfant à son premier mari. Elle refuse de rester dans un. Elle refuse que son mari prenne une autre épouse. C'est pour ça qu'elle préfère divorcer, si j'ai bien compris. Oui. Ophélie Rion. Elle va avoir un deuxième époux, mais qui lui est polygame. Donc, et elle s'est en fait beaucoup battue contre la polygamie, notamment au moment de la promulgation du code du mariage en 1962 au Mali.
Oui, et c'est tout l'intérêt, toute cette tension entre la vie privée et les engagements politiques, où Awa Keïta, en fait, est contre la polygamie, milite contre la polygamie, mais il n'empêche qu'une femme de son envergure politique ne peut pas être célibataire. Donc, elle décide, elle accepte de se remarier à la fin des années 50 avec un enseignant dont elle sera la deuxième épouse, au moment même où elle défend à l'Assemblée nationale un code de la famille, un code du mariage qui, selon elle, devrait interdire la polygamie. Donc on voit toutes ces tensions, tous ces paradoxes.
Ce code du mariage qui a été revu en 2009, mais qu'est-ce qu'il avait de spécifique, ce code du mariage en 62?
Il était assez révolutionnaire parce que il instituait le mariage civil comme seul mariage reconnu. Les gens devaient d'abord aller se marier à la mairie avant d'aller se marier à la mosquée ou à l'église ou devant l'institution religieuse. C'était un code qui interdisait la répudiation. Qui interdisait les mariages précoces, qui rehaussait l'âge du mariage pour les filles, qui limitait la polygamie. La polygamie n'était pas interdite, elle a perdu sur ce combat-là à Awa Keïta, mais ça limite quand même la polygamie. Voilà, donc vous avez toute une série de décrets, enfin d'articles qui vont dans le sens d'une plus grande liberté et d'une défense des droits des femmes, sur lesquels le code de 2009 en fait est en partie revenu, notamment autour de cette question du mariage civil.
Ouais. Nous sommes en ligne avec Awa Lital, sociologue à l'Université d'Ottawa au Canada. Bonjour Awa Lital.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde, mes co-panélistes et tous vos auditeurs, en particulier ceux qui me suivent, je vous aime tous et toutes.
Merci d'être en ligne avec nous en direct de si bon matin, vous qui êtes à l'heure canadienne. Vous avez publié De la Reine de Saba à Michelle Obama, africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui. Et je sais que Awa Keïta tient une place particulière dans votre cœur.
Absolument, absolument.
Est-ce qu'on vous a donné le même prénom tout à fait par hasard, d'ailleurs?
Non, Awa, c'est l'équivalent d'Ève, c'est la mère de l'humanité et beaucoup de femmes en Afrique portent le nom d'Awa.
Qui s'écrit d'ailleurs différemment selon, avec
voilà,
un W ou pas.
Voilà, qui s'écrit très différemment. Moi, mon prénom s'écrit exactement comme la grande Awa Keïta du Mali.
Oui.
Le Mali, le grand empire du Mali.
Comment vous ressentez ces différentes héroïnes et la façon dont elles étaient considérées dans leur société, dans leur époque? Parce que ça aussi, c'était difficile de s'affirmer envers et contre tous.
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça rentre simplement, moi mon livre rentre dans la perspective de Cheikhanta Diop, qui s'est battu pour la restitution de la vérité historique sur l'Afrique. Cette Afrique dont on est allé jusqu'à dire qu'elle est sans âme et sans culture. Et justement, l'un des reproches qu'on fait à l'Afrique, c'est que l'Afrique ne fait pas la part à la femme. Mais si on fait des recherches, comme Cheikhanta Diop l'a fait, il montre que le régime matriarcal est dans nos ancêtres antérieurement à toute influence extérieure, avait fait une place de choix, non pas la courtisane, mais la mère de famille. Cela est vrai de l'Égypte antique jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à la période précoloniale. Et justement, je crois que de toutes les sociétés et au fil des temps, les contributions des femmes ont été occultées. Ça, que ce soit en Europe, que ce soit d'ailleurs, des femmes ont été obligées en Europe de prendre des noms d'hommes pour écrire, tel que George Sand. Et il y a justement un groupe qui a écrit, qui s'appelle George Sand, et qui a écrit « Ni vu, ni connu », que vous avez reçu d'ailleurs. J'étais en Algérie quand je les écoutais à votre radio, et qui ont déterré 75 femmes en Amérique, en Europe, etc., etc. Alors imaginez-vous, Emmanuel, l'Afrique où les femmes sont triplement victimes de la colonisation esclavage, des idéologies d'infériorisation et de domination mâle.
Et d'ailleurs, Ophélie Rion, vous, quand vous travaillez pour essayer de recueillir des témoignages de femmes anciennes militantes qui sont âgées aujourd'hui pour qu'elles racontent leurs histoires, est-ce qu'elles parlent facilement de ces années? Est-ce qu'il y a une forme de pudeur imposée par la société aussi sur leur engagement, ce qu'il a été, Ophélie Rion?
Alors oui, c'est une excellente question en fait. C'est très compliqué de faire des entretiens avec des femmes maintenant âgées, qui sont mères, qui sont grand-mères et qui ne veulent pas forcément évoquer cette période de leur jeunesse où elles étaient militantes, où elles prenaient la parole en public, où elles participaient à des réunions nocturnes avec les hommes, elles arpentaient la région, voire au-delà des frontières de l'Afrique pour aller dans des meetings, etc. Et donc, il ne sied pas forcément à une dame d'un certain âge de revenir sur cette histoire-là. Donc non, c'est pas évident de faire des entretiens, mais ça dépend des sociétés.
Oui.
Au Mali, j'ai plus de difficultés, parce qu'il y a cette pudeur peut-être liée à l'islam qui est davantage présente. Au Burkina Faso, les aînés ont plus d'aisance à raconter cette histoire-là.
Sylvia Serbien, il faut quand même redire qu'aujourd'hui encore, des féministes respectables d'un certain âge sont souvent traitées dans certains pays, notamment, j'ai déjà entendu ça au Sénégal, de femmes un peu excitées, un peu hystériques.
Oui, en fait, je pense que c'est par une méconnaissance de notre histoire, parce que si tous ces gens-là qui jugent, et même ces féministes savaient que dans des temps très anciens, les femmes africaines déjà avaient un rôle de leadership important, et ce rôle était reconnu par la société, mais comme on l'a dit plus tôt, c'est au fur et à mesure de la culturation de ces sociétés par des puissances coloniales patriarcales, donc tout ce pouvoir féminin qui était reconnu a été finalement combattu et est resté dans l'ombre. Donc les féministes d'aujourd'hui essaient de retrouver peut-être cette gloire passée, bon, peut-être avec excessivité. Et puis surtout, elles ont considéré que c'est le féminisme occidental qui leur permet de s'exprimer, sans savoir que leurs ancêtres, avant ces occidentales, étaient des féministes avant l'heure.
Ophélie Rion, je voudrais juste qu'on dise un tout petit mot avant de passer à une autre héroïne beaucoup plus contemporaine, d'une bande dessinée qui a été éditée par l'UNESCO sur Hawa Keïta, dont vous avez écrit les textes. C'est important aussi aujourd'hui qu'il y ait ce vecteur-là pour transmettre la mémoire de ces héroïnes ?
Oui, alors plus largement, en fait, c'est une plateforme mise en place par l'UNESCO qui permet de donner des éléments aux enseignants et aux élèves des écoles en Afrique autour des figures féminines africaines. Et moi, j'ai conçu le module autour d'Hawa Keïta pour le Mali, qui va avec des textes, une biographie et une bande dessinée qui croise l'histoire d'Hawa Keïta. Alors, c'est une fiction, hein. Hawa Keïta qui rencontre une jeune fille, une lycéenne, qui a investi dans les mouvements étudiants du Mali de la fin des années 70. Et donc, on a ces deux générations de femmes qui se croisent et qui dialoguent autour de leur combat.
Et c'est important parce que ça montre aussi aux jeunes filles d'aujourd'hui comment une figure historique peut rester inspirante, même si elle a vécu à une époque complètement différente et où, heureusement, il y a des acquis sociaux aujourd'hui qui n'étaient pas là autrefois. Encore que ça dépend des pays. Vous restez avec nous dans quelques instants. Nous partons à la rencontre d'une héroïne bien contemporaine qui, elle, ne risque pas d'être enfouie par l'histoire.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Alors elle prend la lumière énormément. Mardi dernier, Michelle Obama était à Paris pour présenter son autobiographie Becoming, parue en France aux éditions Fayard sur le titre Devenir. 20 000 personnes attendaient l'ancienne First Lady américaine. Un public très large, des femmes, des hommes de toutes origines, de toutes générations. Promesse et Patricia sont venues de Bordeaux pour écouter l'histoire de Michelle Obama dans une ferveur digne des plus grands concerts de rock. C'est un reportage de Ndaya Latiba.
Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes des sœurs de cœur. Nous nous sommes choisies et nous partageons mais à 1000% les valeurs de Michelle Obama. Et tout ce qu'elle représente, franchement, ça nous parle. Au-delà de la couleur, hein, enfin voilà, donc elle aurait été vert, jaune, blanche, n'importe quoi, on s'en fout. Mais le parcours, les valeurs, honnêtement, c'est nous quoi en fait.
Pourquoi venir depuis Bordeaux ? Expliquez-moi. J'accompagne des gens dans la vocation professionnelle et effectivement, j'ai fait ce constat de femmes qui partent déjà avec un capital dévalué d'avance en disant « oui, moi je vais prendre ce qu'on va me donner, je vais prendre ce que je vais trouver ». Mais c'est vraiment une difficulté à se donner de la valeur et à monter un projet en s'appuyant vraiment sur qui on est.
Alors, j'ai posté tout à l'heure donc nos tickets d'entrée, mon livre de venir et j'ai mis des hashtags. Donc, hashtag Woman of Power, hashtag Yes We Can and We Do, hashtag Girl Power, enfin tous les hashtags du monde, quoi.
Michelle Obama. Girls come to this world, they're competitors. They want to win too. They just don't want to be loving mothers and wives. They want to kick a ball, they want to throw a punch. They want to have an argument. They want to win.
Tout ce qu'elle représente aujourd'hui comme valeur en termes d'accomplissement sur tous les plans, eh ben nous, ça nous parle. Il y a ça, il y a cette envie, cette niaque-là. Et cette nécessité, en fait, d'être un modèle, en fait. Beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, ont peur de s'accomplir. Elles savent qu'elles ont un potentiel, elles savent qu'elles ont du talent, elles savent qu'elles ont des compétences, des connaissances, mais elles n'osent pas. Au sortir de cette conférence, je retiens vraiment deux choses. c'est de garder allumée cette petite flamme avec laquelle je suis née. Nous sommes nés avec un tempérament, nous sommes nés avec une personnalité et qu'il ne faut absolument plus laisser les autres, l'environnement, toutes choses extérieures nous qualifier, nous modeler. Il faut vraiment qu'on essaye de rester authentique.
Et du haut de mes 44 ans, j'en garderai comme un des souvenirs de 2019, avoir partagé une soirée dans la même salle que Michelle Obama, une dame qui a vécu à la Maison Blanche, l'une des maisons les plus imposantes du monde, l'une des maisons les plus puissantes du monde. Elle est certes américaine parce qu'elle y a vécu, mais elle est afro-américaine. Et ce n'est pas un hasard que ce mot afro soit avant l'Amérique.
7 milliards de voisins.
Pour se parler.
Awa Lital, ça c'était pour vous le reportage sur Michelle Obama à Paris, puisque vous publiez de la Reine de Saba à Michelle Obama, africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui. Pourquoi aller jusqu'à Michelle Obama tout de même, qui est américaine quand même, Awa Lital?
Michelle Obama est américaine aujourd'hui, mais ses ancêtres viennent de l'Afrique. En 1850, le grand-père de Michelle Obama Robinson était esclave dans les plantations d'Amérique. Et Michelle Obama a été justement porteuse d'une conscience de l'oppression de la communauté africaine-américaine, mais africaine tout simplement. Et elle était armée de la volonté de la révolutionner, lentement mais sûrement, et de contribuer à une révolution tranquille de la société américaine, mais de la société mondiale. Et je peux dire presque aujourd'hui, Emmanuel, que Michelle Obama est la synthèse de toutes ces héroïnes africaines qui ont participé depuis l'Égypte antique avec Yasser Sous 15 siècles avant Jésus-Christ, avec la reine de Saba 9 siècles avant Jésus-Christ. La reine Anzinga, celle dont vous avez parlé.
La boucle est bouclée. Hein. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de parler de la reine Zinga d'Angola. On va en dire un mot, mais je voudrais quand même donner la parole à un auditeur qui n'est pas content parce qu'on ne lui donne pas la parole. Yves à Kinshasa, en direct de RDC. Bonjour Yves.
Bonjour, merci en tout cas pour cette parole. En fait, je voudrais parler un tout petit peu de la chefferie. Les chefferies diligentées par les femmes, parce qu'au Congo, nous avons connu une femme chef qu'on nommait Fumu Kanto. Mmh. Et aujourd'hui, ce concept de femme chef a été récupéré un tout petit peu par la classe politique dirigée par les femmes. Mmh. Et ce concept signifie une femme élevée en dignité, revêtue de pouvoir et de leadership. Ouais. Alors, il vient de se passer quelque chose d'assez étonnant. Les élections viennent d'avoir lieu au Congo, les élections de gouverneur et ainsi de suite.
Ouais, ça, on n'a
aucune femme élue au poste de gouverneur. C'est quand même problématique. Alors qu'il y a une dame qui est candidate présidente de l'Assemblée nationale, nous accordons toute la chance à cette dame qui s'appelle Madame Janine Mabunda.
Non, mais vous avez raison de souligner ça parce que c'est important de pouvoir remettre de la connaissance et de la lumière sur ces héroïnes. On n'a pas parlé de la reine Zinga d'Angola, mais pour vous, elle est très importante, Sylvia Serbin.
En fait, toutes ces femmes aujourd'hui qui se battent sont aussi les héritières de ces héroïnes du passé, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc la reine Zinga elle a résisté pendant 40 ans aux troupes portugaises qui voulaient envahir son pays, et elle était connue dans toutes les cours d'Europe dès le XVIIe siècle. Donc elle a suscité des écrits en Italie, en France, en Allemagne, en Hollande, enfin voilà, au Portugal.
Et on ne peut pas dire que sa mémoire soit enfouie. En tout cas, merci
non,
à vous tous. On a reçu énormément de messages sur toutes ces héroïnes par nos fils Facebook, par nos réseaux sociaux, des auditeurs, des voisins et des voisines. Merci à vous tous. Merci à vous, Sylvia Serbin.
Je peux dire
reine d'Afrique
et
héroïne de la diaspora noire chez Medu Netter. Vous serez au Salon du Livre d'Abidjan
du 15 au 19 mai et je pourrai en reparler avec les lecteurs.
Et merci à vous, merci. Ophélie Rion, Awa Lital. Toutes les références sont bien sûr notées sur notre page, sur le site RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. À demain.